parole du jour avec le Père Willem.
L'Église en dialogue, selon François. Le dialogue n'est pas un aveu de faiblesse. Un vrai dialogue est un exercice très exigeant qui suppose plusieurs conditions. La première condition est d'être capable d'un regard autocritique. Le pape François y force d'ailleurs l'Église et ne la ménage pas quand il dénonce les dysfonctionnements de l'institution. Une deuxième condition consiste à accepter d'apprendre des autres. Celui qui est emmuré dans ses propres certitudes ne peut entrer en dialogue. Là encore, François indique que nous devons accepter que les autres nous évangélisent constamment. C'est un des enjeux du synode que fidèles théologiens et clercs s'évangélisent mutuellement. La question est primordiale. Ne sommes-nous pas souvent dans l'attitude de celui qui sait, qui apporte des solutions, des réponses? Sommes-nous prêts à nous laisser déplacer par les questions, les questionnements de l'autre, à entendre sa quête de Dieu, y compris à travers ses doutes ou sa négation de l'existence de Dieu? Enfin, la troisième condition du dialogue est que les partenaires acceptent de travailler ensemble pour le bien commun. Le dialogue n'est pas une fin en soi, il est au service d'un vivre ensemble. Mais voilà, ces conditions posent un problème à un certain nombre de catholiques. Pour avoir un regard critique sur soi-même, accepter d'apprendre des autres et travailler ensemble pour le bien commun, il faut être solidement ancré dans sa propre identité comme personne et comme croyant. Le dialogue peut donc faire peur à des personnes qui manquent d'assurance et qui se sentent menacées dans leur foi ou dans leur conviction. Mais il y a une seconde raison pour laquelle l'idée de dialogue passe mal. Les catholiques sont habitués, à tous les niveaux de l'Église d'ailleurs, à ce que la hiérarchie dise ce qu'il faut penser ou faire. Non pas qu'ils suivent ces directives, oh non, pas du tout même. Ce temps-là est révolu. Mais dans l'inconscient collectif, l'Église affirme un point de vue qui ne se discute pas. Des évêques, comme des laïcs, ont donc du mal à accepter que des textes d'Église émanant de la hiérarchie puissent aussi apporter des éléments de réflexion pour des débats de société et peuvent nous déranger. Une communication institutionnelle devrait aussi s'appuyer sur des pratiques, des initiatives menées par les communautés des laïcs. Car la parole seule ne suffit plus si elle n'est pas illustrée par des gestes, des façons d'être. D'ailleurs, cela va de pair avec le dialogue et l'idée d'une fécondation mutuelle entre la vie des fidèles et la réflexion du magistère. C'est tout le mouvement de la pensée sociale de l'Église qui n'est jamais figé et qui se construit dans ce va-et-vient entre pratique sociale et réflexion théologique. Le synode peut donc aider à faire comprendre qu'une évolution similaire est possible dans le domaine de la famille, qui fait partie aussi de l'enseignement social de l'Église. La vie de famille doit irriguer la réflexion de l'Église, et la réflexion de l'Église doit pouvoir irriguer la vie des familles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et tout l'enjeu du synode est de reconnecter ces deux sphères. Ce n'est que dans le dialogue que les incompréhensions à l'égard du discours de l'Église peuvent être dépassées et que les personnes peuvent se réapproprier son message. Comment l'Église pourrait-elle vivre ce dialogue? Alors donc, faisons un rêve aujourd'hui. L'Église, mater et magistrat, au XXe siècle donnerait des éléments de discernement pour aider les fidèles à déterminer eux-mêmes ce qui est humainement humanisant, et ce qui ne l'est pas dans la vie de famille. Elle accepterait aussi de voir grandir ses enfants, se réjouirait de les voir devenir adultes dans la foi. Elle leur laisserait la liberté d'explorer de nouvelles voies pour chercher Dieu et encouragerait d'un œil bienveillant les initiatives. Surtout, elle ne cesserait jamais de poser des questions à la société. Qui sont les exclus? Et les oubliés d'aujourd'hui, qui sont-ils? Où sont les nouvelles fractures sociales? Qui subit l'injustice? Ce rôle ingrat de celle qui dit toujours que rien ne va, elle l'assume déjà. Mais elle n'est crédible que si elle-même, à travers ses membres, tous ses membres, hiérarchie et fidèle, donne à voir. Alors, des solutions et de l'espérance, c'est le pari tenu par l'encyclique Laudato Si, la dernière encyclique donc de François sur l'écologie, qui à la fois souligne la gravité de la situation et donne confiance à l'humanité. Elle sera en mesure de surmonter les difficultés devant lesquelles elle se trouve si elle accepte de mettre en cause son style de vie. L'aggiornamento que le pape François essaie de conduire est tout aussi important que l'aggiornamento de Jean XXIII avec le Concile Vatican II. François met vraiment en œuvre le Concile. Jean-Paul II et Benoît XVI, chacun à sa façon, y a contribué. Et il y a d'ailleurs des continuités entre ces trois papes. Mais François est certainement moins prisonnier de nos schémas européens. Il apporte une certaine spontanéité dans l'annonce. Alors pourquoi passe-t-il si bien auprès de ceux qui sont loin de l'Église? Ce qui les frappe, c'est son attention première à la souffrance, aux personnes. Le jugement moral vient toujours dans un deuxième temps. Et surtout, il donne à voir une cohérence entre ses paroles et ses actes. Seule une cohérence assure une crédibilité à la parole de l'Église. Le pape François est clairement sur la ligne de ceux qui veulent que ça bouge. Il dit dans Evangelii Gaudium qu'une foi authentique, qui n'est jamais confortable et individualiste, cette foi authentique implique toujours un profond désir de changer le monde. À la mondialisation du phénomène migratoire, nous dit François, il faut répondre par la mondialisation de la charité et de la coopération de manière à humaniser les conditions des migrants. En même temps, il faut intensifier les efforts pour créer les conditions aptes à garantir une diminution progressive des causes qui poussent des peuples entiers à laisser leur terre natale en raison de guerres et de famines, l'une provoquant souvent l'autre.